consiste à faire porter votre attention sur le fait que ces fondateurs, ces ex-abandonnés, sont aussi des passeurs. Ils font le lien entre deux mondes. Alors, dans le cas de Moïse, c'est le monde des éléments, l'eau, le Nil sur lequel il avait été abandonné, et le monde humain. Ça peut être le lien entre le monde animal et le monde humain, le cas de Rémus et Romulus. Ils font également le lien entre une civilisation et une autre dans ces deux cas. On voit par là qu'il s'agit pour les abandonnés de répondre à une mission, d'être conscients qu'ils ont finalement une charge à part, l'abandon étant devenu de ce fait une sorte d'élection. Bon, élection maudite, diront certains. Maudite, effectivement, c'est-à-dire maldite. Mais pourquoi ne pas rectifier ces paroles qui ont été maldites ? Dans cette mission, vous participez de l'un et de l'autre monde, puisque vous avez connu les deux, donc vous êtes plus riche que l'ensemble, l'humanité moyenne, si vous voulez. Vous venez du monde humain, mais on vous a renvoyé dans le monde anté-humain, on vous a renvoyé à la nature par l'abandon. Et donc, vous êtes un ambassadeur rêvé. Vous connaissez les deux langues, vous connaissez les deux univers. Mais attention, parfois, vous pouvez être le bouc émissaire rêvé, parce que vous en savez trop long. Il vous faut donc être attentif, parce que vous êtes doté de plus de savoir, et vous êtes aussi, de ce fait, davantage exposé aux incidents de frontières entre les deux mondes. Donc, c'est une situation d'élection, mais une situation de danger. Il faut le savoir quand on est soignant ou quand on est abandonné. Quelquefois, on peut être les deux. Mais, donc c'est une force, c'est une fragilité. Vous allez voir que, finalement, l'abandon n'est pas le pire des situations humaines. Si on regarde un autre versant de la mythologie, il y a pire que l'abandon. Il y a la dévoration. Parce que l'abandon peut se résoudre en création ultérieure, en fondation ou en refondation. Mais la dévoration, non, c'est archaïque. Je prends le cas, chez les Grecs anciens, de Cronos, qui était un titan et qui était le père de Zeus. Donc Cronos, vous le connaissez, c'est le dieu du temps qui a donné la chronologie, etc. C'est le dieu du temps, mais en fait, c'est le dieu qui refusait le temps. Refusant le temps, il refusait la loi. Il dévorait donc ses enfants dès leur naissance afin d'éviter d'être détrôné par eux. Voilà une façon de régler le problème du chômage des jeunes qui est assez extrême. Donc il pratiquait une loi sans limite, la loi de son désir, c'est-à-dire une non-loi. Qui pratique la loi du désir sans reconnaître le désir de l'autre, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la loi. Or, stratagème de son épouse qui en avait assez de voir dévorer sa pauvre progéniture, elle va placer un jour une pierre à la place du bébé qui venait de naître. Le bébé, c'est le petit Zeus qui deviendra le grand dieu que l'on sait. Et Cronos, n'obéissant qu'à la violence de son désir, parce qu'il est sans loi, rappelez-vous, Cronos se précipite sur le bébé dans ses langes, et c'est une pierre, et il périt étranglé par son refus de partager, son refus de disparaître, son refus de la mort. Il périt étranglé par son désir. Et donc, Cronos n'est pas un abandonneur parce qu'il ne donne rien. Il ne donne même pas un atome de liberté, c'est un dévoreur. Car celui qu'il dévore cesse d'exister dans l'ordre des liens, dans l'ordre de la succession temporelle et aussi dans l'ordre de la vie naturelle. Quand vous êtes dévoré, c'est pour longtemps et même pour toujours. Donc, Cronos et ses enfants symbolisent, si on peut dire, la préhistoire de l'abandon. Avant le temps, c'est-à-dire avant l'humanisation des cadres de la vie. Zeus qui lui succédera grâce à la protection de la mère qui ne parle pas non plus. Cronos ne parlait pas, il n'y aura pas de parole, il n'y a que des actes. Mais la mère a utilisé le désir du père, elle l'a porté à terme et l'a déjoué, si vous voulez, par son excès même. Et donc, à la violence paternelle, il y a eu une riposte maternelle à cette violence. Et donc, Zeus a survécu et il est devenu aussi un fondateur. Il a fait passer le monde des dieux antiques de l'archaïsme à l'humanisation. Et donc, il a eu lui aussi une fonction de mise en ordre. Voilà pour la mythologie. Et c'est à ce point de ma recherche, j'avais regardé aussi quelques autres personnages avant de faire mon choix, c'est à ce point que je me suis dit, mais où sont les filles ? Comme il se trouve que j'en fais partie, j'étais un peu concernée et je trouvais désolant qu'il n'y ait pas de filles abandonnées. Alors, est-ce que ça voulait dire que les filles n'étaient jamais abandonnées? Ça me semblait trop beau pour être vrai. Alors, sans doute, est-ce un... vous direz que je suis de parti pris, mais quand même, je me suis dit, c'est louche. Et donc, où trouver des filles abandonnées? J'ai parcouru ma mythologie, j'ai regardé partout, et je suis revenue à la littérature, plus exactement à une articulation entre la littérature et la mythologie, en étudiant, en regardant dans l'Iliade d'Homère, également dans Racine. Et donc, je suis allée voir dans ce qui est plutôt l'histoire intime de l'humanité, de nos relations, de nos émotions, c'est-à-dire la littérature. Et j'ai pris l'exemple d'Iphigénie. Iphigénie, bon, vous, si vous avez des souvenirs de l'école, du lycée, c'est l'héroïne de Racine, n'est-ce pas? Mais c'est aussi, dans l'Iliade, c'est la fille d'Agamemnon, le héros grec de la guerre de Troie. Et vous savez qu'elle sera sacrifiée par son père. En tant que fille aînée, elle a le privilège de pouvoir être sacrifiée. C'est ça, les rangs des enfants ont un sens. Donc quand on est fille aînée, on a ce privilège-là. Et elle sera sacrifiée sur l'autel de la déesse Artémis, qui serait, dit-on, la jumelle, le versant féminin d'Apollon. Sacrifiée afin que les vents et la mer se calment et que les bateaux grecs puissent prendre le large. Donc vous voyez, côté fille, l'abandon, c'est plutôt un sacrifice. Ici, c'est l'utilité qui prime. Le délaissement de la fille doit servir une cause. Alors, est-ce que c'est la forme d'abandon destinée aux filles? Je n'oserais pas l'affirmer. Bon, c'est quand même plutôt une tendance de notre civilisation à lire les ethnologues. On voit que les femmes, depuis longtemps, sont objets et monnaies d'échange. Sans vouloir entrer dans la polémique, c'est un fait avéré. Et donc, abandon, sacrifice. Le pire quand même, enfin à mon sens, je ne sais pas si vous serez de cet avis, le pire dans cet abandon, sacrifice, ce n'est pas l'acte lui-même. Il n'est pas très amusant et on n'en sort pas vivant. Ce n'est pas l'acte lui-même et la mort de la malheureuse Iphigénie, c'est avant tout pour moi le fait que tout le monde autour d'Iphigénie lui cache la vérité. Le pire, c'est ce mensonge. Que se passe-t-il, dit Iphigénie à certains moments. Mais non, tout va bien, tout très normal, et reste, dors tranquille, ma jolie. Tu vas être sacrifiée demain matin, mais tu n'as pas à le savoir. Et donc, il y a délaissement, il y a rejet hors des liens familiaux, pour une cause utile. Il y a sacrifice de la vie même et enfin il y a refus d'une parole vraie. Iphigénie est rejetée hors du monde de sa famille, hors du monde des vivants, et en plus on ne lui permet même pas de le savoir, de s'y préparer. On lui dénie tout droit à se poser comme maître de parole, on lui dénie tout droit à être sujet de son histoire. Si dramatique soit-elle, si vous voulez. Donc elle est une chose, elle est un objet utile, elle est une monnaie d'échange avec le monde des dieux. Et là aussi on retrouve l'idée de passage. Mais tandis que les abandonnés ont un certain choix, parce que d'abord, ils sont vivants, ils sont revenus à cette liberté qui peut être déréliction, mais ils sont vivants. Iphigénie, elle va mourir. Donc c'est l'abandon à la fois le plus violent, le plus définitif et le plus cruel, parce que c'est la plus extrême des déshumanisations. On est hors la parole tout le temps. Et donc... On pourrait dire qu'elle est, si vous voulez, le pendant d'Isaac dans la Bible. Isaac est le fils sacrifié, mais attention, au dernier moment, Dieu retient le bras armé d'Abraham. Alors qui retiendra le bras d'Agamemnon ou du prêtre sacrificateur? Alors dans Racine, non. Racine, le théâtre de la cruauté, Iphigénie meurt. Mais, si je peux vous rassurer, moi ça me rassure aussi, il y a certaines traditions dans lesquelles Iphigénie, finalement, ne meurt pas. Elle est sauvée par la déesse Artémis, dont elle deviendra une des servantes, une des prêtresses. Et alors, la tradition dit qu'après s'être mise longtemps au service de la déesse, elle serait devenue, comme cette déesse, une femme libre, dont elle aurait fini par emprunter certains traits. Voilà qui peut rassurer. Enfin, vous constatez que la situation féminine est quand même un peu plus difficile à vivre. Enfin, c'est en tout cas mon sentiment. Après, au bout de cette assimilation à Artémis, alors que va devenir Iphigénie? Sera-t-elle une fondatrice, une passeuse? Une fondatrice, sûrement pas, puisqu'on est en civilisation plutôt patriarcale, mais une passeuse sans doute. Et les passeuses dans notre monde, ce sont plutôt toutes les personnes qui sont reliées au symbolique, à la religion ou à l'analyse, à la psychanalyse ou à la médecine. Ces gens-là sont des passeurs, Lacan l'a dit. Donc voilà le parcours que je voulais vous proposer. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire. Il y aurait beaucoup d'autres héros et héroïnes à convoquer. On pourrait parler, puisque c'est l'année Victor Hugo, de la petite Cosette, abandonnée. Vous savez qu'il y a aussi Gavroche. C'est assez intéressant de regarder dans Les Misérables le traitement différent de Cosette et de Gavroche par Hugo. Ce n'est pas indifférent. Gavroche va être créateur de langage. C'est Victor Hugo, le premier qui a osé supprimer la négation. Au lieu de dire ça ne va pas, ça va pas ou quoi ? C'est Gavroche, ça. Dans la bouche de Gavroche, il y a... Bon, c'est Hugo, mais il y a création de langage. Dans la bouche de Cosette, il y a plainte et résignation. Hein ? Donc, c'est quand même intéressant. On pourrait regarder aussi du côté de Virginia Woolf, avec son fameux personnage d'Orlando. Orlando, qui est une femme, mais en même temps qui va vivre plusieurs centaines d'années. C'est un mythe assez fabuleux. Et qui deviendra tantôt homme, tantôt femme, et qui connaîtra les deux versants de l'expérience humaine. Mais enfin, bon, je ne vais pas monopoliser votre attention trop longtemps. Ça, c'était juste un petit apéritif, une mise en bouche, une mise en situation de l'abandon. Je crois qu'il s'agit maintenant d'entrer dans le vécu de l'abandon aujourd'hui, aussi dans le soin à l'abandon. Ce sont d'autres histoires de langage, bien sûr. Moi, il m'appartenait de retracer l'histoire du mot dont nous avons vu qu'il était habité par l'étymologie et plein de mythologie aussi. Et donc, mon propos introductif est une sorte d'assise pour la suite. Et c'est pourquoi je vais céder la parole à mes collègues. Mais avant, si vous avez quelques remarques ou questions, elles sont évidemment les bienvenues.